السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du samedi 18 ربيع الأول 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 11 février 2012 بإذن الله تعالى. Donc il y a eu une erreur, j'ai poussé quelqu'un. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer un nouveau chapitre avec le cours numéro 59. On va commencer le hadith numéro 60 de Riyad Salihin. Ce nouveau chapitre parle de le contrôle permanent d'Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle aussi la surveillance, ce qu'on appelle en arabe le muraqaba. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on ne va pas commencer le hadith 60, car le shir va parler de l'introduction de ce chapitre al-Muraqaba. Il va parler de quelques versets qu'il a cités et qu'il a expliqués. Donc, il a cité le verset, premier verset, c'est le verset de Sourate Shu'ara, 218-219. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Celui qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui prosternent. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Ensuite, il a cité le deuxième verset, sourate Al-Hadid, verset numéro 4. Et il est avec vous où que vous soyez, et il est avec vous, où que vous soyez. Ensuite, il a cité le verset de Ali Imran, numéro 5, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi. Allah, c'est-à-dire rien, vraiment ne se cache d'Allah Azza wa Jal, de ce qui existe sur terre ou bien dans le ciel. On va, inshallah ta'ala, un peu, yani, tout à l'heure, on va, inshallah ta'ala, expliquer ces versets, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah, a cité un quatrième verset où Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, dans Sourate Al-Fajr, il a dit: Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Car ton Seigneur, et ou la demeure aux aguets, demeure aux aguets. Ensuite, un cinquième verset dernier, qui parle toujours de la surveillance, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi al-sudur. Ghafir 19. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi al-sudur. Allah Azza wa Jalla connaît la trahison des yeux, tout comme ce qu'il y a dans les poitrines, ou bien ce que les poitrines cachent. Allah Ta'ala connaît la trahison des yeux, tout comme ce que cachent les poitrines. Maintenant, on va passer, Inch'Allah Ta'ala, à l'explication. Un muslim, est-ce que vous voyez les versets? Est-ce que... Hein? Quand j'affiche... D'accord. Barakallahu fi. Donc, Shah. Le Cheikh, rahimahullah, a dit: Lamma dhakara al-mu'allif, rahimahullah, bab al-sidq. Il a dit, lorsque l'auteur a parlé du chapitre véracité, وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك, et l'auteur a cité les versets et les hadith qui ont rapport avec la véracité, il a dit, أعقب هذا بباب المراقبة. Il a dit, dès qu'il a terminé par le chapitre véracité, il l'a suivi par le chapitre la surveillance, المراقبة, et le contrôle permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, المراقبة لها وجهان. La surveillance, نعم, ça a deux, يعني, disons, الوجه الأول. La première façon, أن تراقب الله عز وجل. Que ce soit toi qui te surveille par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. الوجه الثاني, أن الله تعالى رقيب عليك. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te surveille. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te surveille. Ici, il a cité le verset. وكان الله على كل شيء رقيبا. الأحزاب 52. وكان الله على كل شيء رقيبا. Et Allah Ta'ala observe toute chose. Verset Ahzab, yani verset 52. Et Allah Ta'ala observe toute chose. أما مراقبة الله فأن تعلم أن الله عز وجل يعلم كل ما تقوم به من أقوال وأفعال واعتقادات. Quant à, yani, disons, premier cas de figure, c'est toi qui te surveilles par rapport à Allah عز وجل. Il a dit ici, c'est comme dans ce Shu'ara, on va citer le verset, il a dit que tu saches que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, et tout ce que tu attestes, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Il a cité ici le verset, Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. C'est là qu'il a cité le premier verset. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Celui qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Le Cheikh Aymallah dit, Yaraka hina taqum. Il te voit lorsque tu te lèves, ay fi al-layl, hina yaqum an-nas ou yaqum al-insan fi makanin khali la yattali alayhi ahad illa Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, c'est lorsque tu te lèves la nuit pour prier. Il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui te voit quand tu te lèves, c'est-à-dire tu te lèves la nuit pour prier, il a dit, dans un endroit où il n'y a personne, sauf toi. Il a dit, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. حتى ولو كان في أعظم ظلمة وأحدك ظلمة فإن الله يرى. Il a dit, même si la personne est dans l'obscurité totale, dans tout ce qu'il y a de plus noir, tout seul, نعم, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te voir. Ensuite, il a dit, وتقلبك في السجدين. Lorsqu'il a dit, et il te voit parmi ceux qui se prosternent. Il te voit parmi ceux qui se prosternent. Le Cheikh Rahman a dit, وَأَنْتَ تَتَقَلَّبْ فِي الَّذِينَ يَسْجُدُونَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ. Tu es en train de te renverser, hein, dans la prosternation, comme yani, il y en a certains qui sont en train de le faire pendant yani, la nuit. Pendant la nuit. وَبَكَرَ الْقِيَامُ السُّجُودِ. Vous avez remarqué dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité quoi? A cité quand tu te lèves et quand tu te prosternes. Il a cité deux choses qui se trouvent dans la salat. Quand on est debout et quand on est prosterné. Il a cité, quand on est debout, il a dit car al-qiyam fi salat ashraf min sujud bi dhikri. Car le fait d'être debout dans la salat, il a dit, est mieux que le fait d'être prosterné. Mais il est mieux en quoi? Il est mieux. De ce qui comprend comme invocation. Car quand on est debout, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réciter, c'est la récitation. On récite quoi? On récite le Coran. Donc, il n'y a pas comme quand on est debout et on récite le Coran. Donc, être debout est mieux qu'être prosterné, en ce sens que on récite le Coran. Ensuite, être prosterné, c'est mieux qu'être debout dans quoi? Dans le fait, dans la position. Non, la position. On est dans quelle position? On est prosterné. On est plus proche, le plus proche qu'on puisse de notre Seigneur. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, numéro 744, il a dit, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Il a dit, la position la plus proche où on peut être du Seigneur, c'est lorsqu'on est prosterné. Ensuite, il a dit, فَأَكْتِرُوا الدُّعَى. Donc, il a dit, يعني, essayez de faire beaucoup d'invocations. Donc, je résume ici ce que dit Cheikh. Il dit que le fait d'être debout, en train de lire, est mieux que le fait, est mieux que d'être prosterné. Et le fait d'être prosterné est mieux que le fait d'être debout. Comment cela? Il a dit, quand on est debout, c'est mieux que d'être prosterné par rapport à, on a le Coran, on est en train de réciter le Coran. Et réciter le Coran, il n'y a pas mieux que cela, bien sûr. Et il a dit, et le fait d'être prosterné, c'est mieux que d'être debout, dans le fait de quoi? Dans le fait, il y a par rapport à la position. La position, on est où? On est dans la position la plus proche qui puisse exister, par rapport yani, au Seigneur. Donc en ce sens, c'est mieux que d'être debout. كذلك من مراقبتك لله أن تعلم أن الله يسمعك. Il a dit ça rentre dans la surveillance hein, que tu es en train de te contrôler par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit le fait que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala t'entend. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'entend. فأي قول تقوله فإن الله تعالى يسمعك. Le cheikh dit n'importe quelle parole que tu dis qui sort de ta bouche, sache que Allah subhanahu wa ta'ala l'entend. Comme il a dit dans le Coran, أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. Zuhruf 80. Zuhruf 80. Je répète quand il a dit أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. C'est-à-dire, ou bien croit-il que nous n'entendons pas leurs secrets, ni leurs délibérations. Mais si, nos anges prennent note auprès d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire ici, que non seulement il entend ce qu'on est en train de dire, mais mieux que cela, c'est écrit. Les anges sont en train de noter ce qu'on a dit. Pourquoi? Car si Allah subhanahu wa ta'ala va se suffire à ce qu'il a entendu, et Yom Al-Qiyama, il va dire pourquoi tu as dit telle et telle chose. Tu vas jurer par Allah Ta'ala le Tout-Puissant et mentir pour dire que tu n'avais pas dit cette chose. Je jure par Allah le Tout-Puissant que je n'ai pas dit yani, cette phrase. Donc Allah Ta'ala, pour établir la preuve sur nous, qu'est-ce qu'il fait? Il a ordonné aux anges d'écrire. Comme ça, Yom Al-Qiyama, quand tu vas jurer et mentir, il va te dire, lis ce qu'il y a dans le livre. Et tu vas dire que tu avais dit cette phrase. Des fois seulement, yani, on a peur de seulement d'être emprisonné ou d'être battu ou d'être, la personne peut mentir et jurer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si quelqu'un va te prendre yani, un voleur ou va te mettre un couteau dans la gorge et va te dire yani, pourquoi tu as dit cette chose ou là, pourquoi tu as fait cette chose, tu vas jurer par Allah que tu n'as pas fait. Juste pour quoi? Pour ne pas être tué, pour être sauvé. Qu'en est-il quand Yom Al-Qiyamah tu vas voir l'enfer qui t'attend en face de toi? Donc yani, beaucoup, beaucoup de gens vont jurer par Allah qui n'avaient pas dit telle et telle phrase, et Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur prouver qu'ils ont menti, il va leur montrer ce que les anges ont noté. Ce que les anges ont noté. Le cheikh dit, وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الَّذِي تَتَكَلَّمُ بِهِ خَيْرًا كَنَا مْشَرًا مُعْلَنًا أَمُسِرًا فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَكَ وَعَلَيْكَ. Il a dit, malgré cela, tout ce que tu dis, qu'il soit du bien ou qu'il soit mal, soit quelque chose de mal, ça soit quelque chose... Que ce soit quelque chose que tu as dit à haute voix ou bien tu as dit dans ton cœur. Il a dit tout cela c'est écrit ou bien pour toi ou bien contre toi. Une seconde. Il a dit tout cela est écrit ou bien pour toi ou bien contre toi. Il a cité le verset sur le Qaf. Le verset, alaykum salam wa rahmatullah. Le verset de sur le Qaf où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma yalfidu min qawlin illa ladihi raqibun atid. 18. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à écrire. Donc, personne ne prononce une parole sans que, yani, il y ait quelqu'un ici, c'est l'ange bien sûr, un observateur prêt à inscrire cette parole. Si cette parole est une parole de bien, alhamdoulilah, elle est inscrite sur le champ. Tu n'as pas fini qu'elle est déjà inscrite. Si c'est une parole de mal, alhamdoulilah, que l'ange va t'attendre pendant 6 heures. Comme on a cité ça dans un hadith authentique. Il va t'attendre pendant 6 heures pour voir si tu te désistes et tu fais la tawba ou bien tu ne veux pas faire la tawba et elle est inscrite bi'idhnillahi ta'ala. Le Cheikh rahimahullah dit faraqib hadha al-amr. Donc fais attention à cette chose-là. Wa iyyaka an tukhrija min lisanika qawlan tuhasabu 'alayhi yawm al-qiyamah. Une seconde. Placard. Faraqib hadha al-amr. Wa iyyaka an tukhrija min lisanika qawlan tuhasabu 'alayhi. Le Cheikh dit alors fais bien attention à ce que tu dis. Et attention à ce que tu dises une chose et que Yom al-Qiyama, hein, tu vas regretter. Le jour de la résurrection, tu vas regretter d'avoir dit cette phrase. Ij'al da'iman li yaqulu al-haq. Fais de sorte que ta langue ne dise que le bien. Ou ismut. Ou alors, si tu ne peux pas, tais-toi. Tais-toi, ne parle pas. Il a dit, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir. Exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque qui croit Allah subhanahu wa ta'ala au jour dernier, qu'il dise quelque chose de bien ou bien qu'il se taise. Hadith rapporté par Bukhari, numéro 5559. Quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il dise quelque chose de bien ou qu'il se taise. Ensuite, la troisième chose aussi que yani on devrait, à laquelle on devrait donner de l'importance, il a dit an turaqib Allah fi sirrik wa fi qalbik. Non seulement yani tu te contrôles dans ce que tu dis, mais aussi tu te contrôles dans ce que tu dis dans ton cœur. Non, c'est pas ce que tu dis comme ça à l'extérieur, ce que tu extériorises comme parole, mais aussi ce que tu dis comme parole dans ton cœur. Vous savez que nous, on dit des choses dans mon cœur, ça, que personne n'entend. Je suis assis avec le plus proche de moi et il n'entend pas ce que je suis en train de parler et de dire dans mon cœur. Le Cheikh dit, ça aussi, ce que tu dis dans ton cœur, fais bien attention, car il est entendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Ombor, mada fi qalbik min al-shirk billah wa min al-riya. Ensuite, il a dit, regarde ce que tu as dans ton cœur. Comme association shirk, et comme ostentation riya, ou l'inhirafet, comme déviation, ou haqd al-mu'minin, et comme ce que tu détestes, et ce que tu es, comme croyant, l'âme, ceux qui détestent les croyants, ceux qui les haïssent, ceux qui haïssent la sunna, ceux qui haïssent le minel, ceux qui haïssent l'islam, ceux qui haïssent des choses que le prophète islam a dit ou a fait, l'âme, ou mahabbat kafirin, et le contraire, que tu as dans le cœur comme penchant vers les mécréants, comme amour des mécréants, amour des moubtadiens, wa ma ashbaha dhalika min umur lati la yardaha Allah azza wa jalla, et qui ressemble à ce qu'on vient de dire, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Il a dit tout cela, fais attention à lui. Raqib qalbak, surveille ton cœur. Tafaqadhu da'iman, surveille-le tout le temps, tout le temps. Et ne sois pas distrait de yani des pensées qu'il y a dans ton cœur. Ensuite, Cheikh Rahimallah a cité un verset, Surat Qaf, verset numéro 16, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. » Et nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, ce que lui dit son âme. Et nous ici c'est les anges, nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Les anges sont plus proches que toi, yani que ta veine jugulaire de toi, ils sont plus proches. فَرَقِبْ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِي الْمَوَرِعِ الثَّلَثَ. Donc il a dit, surveille Allah subhanahu wa ta'ala dans ces trois choses. Fi fi'lik, dans tes actes. Fi qawlik, dans tes dires, wa fi sariratik, et dans ta poitrine, ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, wa fi qalbik, hatta tatimma lak al-muraqaba, pour que la surveillance soit vraiment parfaite. Wa li hada lamma su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-ihsan, il a dit c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question sur l'ihsan, c'est-à-dire Jibril lui a posé la question sur la bienfaisance et la vertu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit an ta'bud Allah ka'annaka tara, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu le voyais. Fa in lam takun tara, mais si tu ne le vois pas, fa innahu yarak, alors sache que lui il est en train de te voir. Le cheikh dit ubud Allah ka'annaka tara, il a dit adore Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Ka'annaka tushahidu ra'ya 'ayn, c'est comme tu le voyais de tes yeux. Comme tu le voyais dans tes yeux. Et il n'aime pas. Maintenant, si c'est impossible de le voir, et c'est impossible dans la dunya, alors, fenzil, il est le martabat sani. Alors, descend à la deuxième, disons, la deuxième, au deuxième degré. Deuxième degré, c'est quoi? C'est lui qui te voit. C'est lui qui te voit. Le premier degré, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme tu le voyais toi. Ça s'appelle une adoration de désir et d'espérance. Comme ça dit Cheikh. Ibadatu raghba wa tama. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, c'est une adoration de désir. Deuxième degré. Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si lui te voyait. Ça s'appelle une adoration de crainte et de peur. Donc il y a deux sortes d'adoration. La première, tu l'adores, c'est comme si tu le voyais, ça s'appelle une adoration de désir. C'est la meilleure. Ensuite vient la deuxième, c'est l'adoration de crainte. C'est comme si lui te voyait, pas toi tu le vois, mais lui qui te voit. Ça s'appelle une adoration de crainte et de peur. Fais la et c'est obligé de surveiller Allah subhanahu wa ta'ala, de se surveiller par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et de se contrôler. Wa an ta'lam anna Allah raqibun 'alayk, et que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala te surveille. Ayyu shay'in taqulu, chaque chose que tu dis, ou taf'alu, ou bien que tu fais, ou tudmiruhu fi sirrik, ou bien que tu caches dans ta poitrine, Allah ta'ala 'alimun bihi, Allah subhanahu wa ta'ala yani le connaît, le sait. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الاوتور سيتي من الايات ما يدل على ذلك دي فيرسي كي اون رابور ا افيك سكون فيان دو سيتي فبدا بالايه التي ذكرناها الى كومونسي بار لو بروميير فيرسي الذي يراك حين تقوم celui qui te voit quand tu te lèves وتقلبك في الساجدين et qui te voit aussi quand tu te prosternes ensuite on a cité le deuxième verset وهو معكم اينما كنتم الله تعالى est avec vous là où vous êtes, ou bien où que vous soyez. Allah Ta'ala est avec vous, où que vous soyez. Quand tu as dit il est avec vous, il c'est qui? C'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَهُوَ مَعْ عِبَادِهِ إِنَّ مَكَانُهُ, il est avec ses serviteurs. Non, avec ses, yani, sa création, les êtres qu'il a créés. Il est avec eux là où ils sont. Fait bir. Bir. Qu'il soit par exemple sur terre, ou bien puis bah, qu'il soit yani, sur la mer, ou bien dans la mer, puis Joe, qu'il soit dans l'air, nam, ou puis l'ulma, qu'il soit dans l'obscurité, ou puis dhiya, qu'il soit dans la lumière, ou puis ayi hadin huwa ma'ahum ayna makan, et dans n'importe quelle position où tu es, Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. وهذا يدل على كمال إحاطته عز وجل. Et ça, نعم, ça prouve quoi? Ça prouve son parfait cernement. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous cerne parfaitement. Avec sa science, il nous cerne. Avec Qudra, avec sa puissance. وَبِسُلْطَانِهِ وَتَدْبِرِهِ, avec le fait que c'est lui qui régit cet univers, l'administre, le commande. نعم, rien ne lui échappe. ولا نعني انه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكان. Quand on dit que Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala nous cerne et qu'il est avec nous, on veut pas dire, le cheikh dit, on veut pas dire par là qu'il est avec nous yani dans le même endroit qu'il est avec nous, yani bidatihi, avec son entité, son essence. Non. لِأَنَّ اللَّهَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ car Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. كَمَا قَالَ تَعَالَى comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il a dit الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى soit Taha numéro 5. الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى le tout miséricordieux s'est établi, istawa, au-dessus du trône. C'était écrit, s'est établi sur le trône. Je l'ai corrigé. C'est établi au-dessus du trône. Hein, si on dit sur le trône, ça risque de donner ambiguïté et de croire que si on enlève le trône, que donc Allah subhanahu wa ta'ala, sakhallah, va tomber. Mais on dit il est au-dessus du trône. Et il a dit aussi, pour prouver qu'il est le plus haut, il a dit dans Sourate Al-An'am. Sourate Al-An'am, il a dit وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَدِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَدِهِ c'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. Le dominateur suprême sur ses serviteurs. Il a dit aussi dans Surat al-Mulk, verset numéro 16, pour prouver aussi qu'il est le plus haut, il a dit أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel? Au ciel. Naam. Je ne vois pas comment les Habèches, comment ils vont répondre quand Allah Ta'ala il dit qu'il est au ciel. Ils vont dire que c'est les anges qui sont au ciel ou bien c'est son ordre, son affaire. Mais pas lui, hein. Naam. Et quand il dit, « وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ » Al-Baqara 255, il dit, « وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ » Et c'est lui, le très haut, le très grand. Très haut, il n'y a pas plus haut que lui. Le très grand. Et quand il dit dans Sourate Al-A'la, سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى glorifie le nom de ton Seigneur le très haut glorifie le nom de ton Seigneur le très haut et vous connaissez tous les versets les hadiths qui parlent de que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus haut Azza wa Jal il est le plus haut avec son essence et il est le plus haut aussi avec yani, le fait qu'il domine. Mais on ne dit pas comme l'Ahbash que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus haut seulement dans la domination. Mais on dit qu'il est le plus haut aussi avec quoi? Bidati, avec son essence. Sinon, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension? Si Allah ta'ala était partout, comme disent l'Ahbash et comme disent l'Asha'ira, comme disent les soufis, si Allah ta'ala était partout, à quoi ça sert? Que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire quoi? De faire l'ascension. Pourquoi il a fait l'ascension de Mi'raj? Pourquoi est-il monté dans les cieux? Et qu'est-ce qu'il y a à la fin du hadith quand, Allah ta'ala, quand le prophète alayhi wa sallam, est monté? N'a-t-il pas parlé à Allah subhanahu wa ta'ala là-bas? Et il lui a quoi? Il lui a ordonné de faire des salats, entre autres, 5 salats. C'est vrai ou pas? Donc pourquoi le prophète alayhi wa sallam, s'est fatigué et est monté? Il a fait l'ascension. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, là où il a rencontré yani, beaucoup de messagers. Pourquoi il a fait l'ascension? Il aurait dit, Allah Ta'ala est partout, pourquoi je vais perdre mon temps? Il est partout, Allah Ta'ala, à quoi ça sert que je monte yani, les 7 cieux pour aller lui parler après Sidrat al-Muntaha? Le Cheikh dit, il a dit, et yani, sans parler des autres versets qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Quand on dit le plus haut, hein, sans que rien ne lui ressemble. Dans tous ses adjectifs et ses épithètes, et les épithètes de Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs. Il connaît ses fêtes et ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala est le très haut malgré qu'il est quoi? Le plus proche. Il est le plus proche malgré qu'il est le plus haut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est le plus haut tout en étant le plus proche. Et il est le plus proche tout en étant le plus haut. C'est pour ça qu'il a dit dans Sourate Al-Baqarah 186, il a dit وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Ici, mes serviteurs, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors que je suis tout proche, hein, t'interrogent sur moi, alors que je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, فَإِنِّي قَرِيبٌ c'est-à-dire réponds-leur que je suis le tout proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il m'invoque. نعم. ولكن الشيخ دي ولكن يجب أن نعلم أنه ليس في الأرض. Mais ce qu'il faudrait qu'on sache, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec nous sur cette terre. لأننا لو توهمنا هذا لكان فيه إبطال لعلو الله سبحانه وتعالى. Car si on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala est sur terre, نعم, ça veut dire que ça va être une invalidation pour le fait que Allah ta'ala est le plus haut. Tu ne peux plus dire qu'Allah Ta'ala est le plus haut, car tu as dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala était avec nous sur terre. Et quand tu dis aussi que, entre parenthèses, qu'Allah Ta'ala est partout, comme disent les soufis et les ahbash et les autres, quand tu dis qu'Allah Ta'ala est partout, ça veut dire que tu as reconnu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, se trouve dans les toilettes, car il est partout. Il se trouve dans les bars, et dans les dancing, il se trouve dans le ventre de l'âne, dans le ventre du porc, car tu dis que Allah Ta'ala est partout, wal'iyadu billah. Et ça veut dire que tu as attesté aussi que Allah subhanahu wa ta'ala yani, grandit et devient petit. Comment qu'il grandit et devient petit? Il grandit, car lorsque tu as dit que Allah Ta'ala est partout. Maintenant, si on va arriver dans un endroit où il n'y a rien, non, il n'y a rien. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là, il n'y a rien. Tu vas construire une maison, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Tu vas construire un immeuble, il est à l'intérieur. On va faire tomber l'immeuble, non, on va démolir l'immeuble, il n'y a plus Allah subhanahu wa ta'ala ici. Donc, il grandit, il devient petit. Ça, c'est des paroles de kufr, des paroles de kufr. Ensuite, ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas aussi avec nous par terre et sur terre, hein, mais qu'il est au-dessus de ses cieux, c'est que Allah ta'ala a dit dans le Coran, il a dit « Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard » C'est-à-dire que son piédestal déborde des cieux et la terre. Son piédestal, qu'on appelle le kursi, déborde des cieux et la terre. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Son piédestal, qu'on appelle kursi, et non pas son trône. J'ai corrigé ici, ils avaient mis son trône. C'est pas son trône. Le kursi, c'est pas le trône. Le kursi, c'est le repose-pied ou bien le piédestal. Et le trône, c'est l'arche. Il a dit son piédestal débordait les cieux et la terre. Si maintenant son piédestal seulement déborde les cieux et la terre, qu'en est-il de quoi? Qu'en est-il de l'arche du trône? Et qu'en est-il de lui, Azzawajal? Comprenez? Seulement le repose-pied, le kursi, les cieux et la terre ne lui suffisent pas, il les déborde. Qu'en est-il pour l'arche? Qu'en est-il pour le trône? Et qu'en est-il alors pour Allah subhanahu azza wa jal? Rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna samawati sab'a ul aradin, il a dit les sept cieux et les sept terres, hein, et les terres sept, hein, par rapport au kursi, par rapport au piédestal, sont comme un anneau qu'on jette dans une terre déserte. Imaginez, l'anneau, qu'est-ce qu'il représente un anneau? On va jeter une bague dans une terre déserte. Que représente cette bague par rapport à la terre? Rien. Ça, par rapport à toute la terre, que représente l'endroit d'une petite bague? Il a dit, c'est comme ça, il a dit, le repose-pied, par rapport à quoi? Par rapport au H. Par rapport au H. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, je vous donne ici le hadith, qui se trouve dans Silsila Sahiha. Silsila Sahiha 109, hadith numéro 109. Il a dit, les sept cieux ne sont devant le repose-pied que comme un anneau jeté dans une terre déserte. Quant au mérite du trône, par rapport au repose-pied, il est pareil à cette terre déserte sur cet anneau. C'est-à-dire que les sept cieux comparé au coursi d'Allah subhanahu wa ta'ala repose lui, c'est seulement un anneau jeté dans une terre. Quant à maintenant la suprématie du trône par rapport à ce coursi, par rapport à ce repose lui, c'est comme cette terre déserte par rapport à la domination qu'elle a sur cet anneau. Et la supériorité du trône par rapport au piédestal, c'est telle la supériorité de la terre par rapport à l'anneau. Et la supériorité du trône par rapport au piédestal, c'est comme la supériorité de la terre par rapport à l'anneau. فَمَّا بَلُوكَ بِالْخَالِقَ عَزَّ وَجَلْ Qu'en est-il maintenant par rapport, si on va comparer avec Allah subhanahu wa ta'ala, لا يمكن أن يكون في الأرض. C'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala soit sur la terre. لأنه subhanahu wa ta'ala أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible qu'il soit cerné par une chose. C'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala soit cerné par une chose. Ensuite, le cheikh dit, وَعَلَمْ أَنَّ الْمَعِيَّةَ الَّتِي أَضَافَهَا اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ تَنْقَسِمُ بِحَسْبِ السِّيَّقِ وَالْقَرَائِنِ Et sache que l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah ta'ala dit il est avec vous, il est avec ses messagers, il est avec les pieux, etc. Le cheikh dit, sache que son omniprésence ici, quand il est avec, son omniprésence, yani son explication dépend de quoi? Dépend du contexte. Dépend du contexte. فترة يكون مقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة. Des fois, son sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire son cernement. Hein? Son cernement, il y a le cernement d'Allah subhanahu wa ta'ala, son cernement par rapport aux créatures. علما, de par la science, de par sa puissance, de par son administration de cet univers. Comme lorsqu'il dit par exemple, il dit « Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum ». Il dit aussi, il est avec vous, là où vous êtes. Il dit aussi « Ma yakunu min najwa thalathatin illa wa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa wa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa wa huwa ma'ahum ». Al-Mujadala 7. Il dit pas de conversation secrète entre trois sans que Allah ne soit leur quatrième. Ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième. Ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ici, c'est quoi ici quand il dit il est avec vous? Il est avec, yani, si vous êtes quatre, c'est lui le cinquième. Vous êtes trois, c'est lui le quatrième. Ça veut dire il est avec les trois, il est avec les quatre. Il est avec un plus grand nom, plus petit. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il est avec. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il est avec. Il est avec ici. De par quoi? De par sa science. C'est-à-dire, rien ne lui échappe de ce que sont en train de dire ces quatre, ce qu'ils sont en train de faire. Non, rien ne lui échappe. Et des fois, quand il dit je suis avec X ou avec Y, non, des fois, c'est la menace et l'avertissement. Des fois, c'est la menace et l'avertissement. Comme dans Sourate An-Nisa, verset 108, lorsqu'il a dit Istakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Id yubayyituna ma la yarda min al-qawl. Id yubayyituna ma la yarda min al-qawl. An-Nisa 108. Regardez ce verset. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'Allah n'agrée pas. Regardez, quand il a dit, il est avec eux ici. Qu'est-ce que ça veut dire, il est avec eux? Ça veut dire, bien sûr, il est avec eux de science. Il sait ce qu'ils sont en train de cacher. Mais c'est une menace. C'est aussi une menace. Là, les menaces pour qu'ils ne refassent plus cette chose. Donc, vous avez remarqué, il y a des gens qui se cachent des gens, mais oublie de quoi, yani, de se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas faire la chose. Non. Il cherche à se cacher des gens, mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Normalement, non, si j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas des gens. Donc certains gens, vont quoi? Yani, ils vont faire des choses quand ils sont seuls, seuls, nam. Croyons que peut-être, peut-être croyons même que quand ils sont seuls, Allah subhanahu wa ta'ala ne les voit pas. Nam. Ça, c'est quoi? C'est une menace. Donc, des fois, Allah ta'ala, quand il dit je suis avec quelqu'un, ça veut dire je suis avec quelqu'un, mais il le menace. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, quand il dit je suis avec quelqu'un, ça veut dire je suis avec lui pour le seconder, pour raffermir son cœur, pour lui donner la victoire. Comme lorsqu'il a dit, par exemple, sur An-Nahl, verset 128, lorsqu'il a dit Inna Allah ma'a alladhina taqaw, wa alladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint, avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Allah Ta'ala est avec eux. Allah Ta'ala est avec tout le monde. On sait que Allah Ta'ala est avec tout le monde de par sa science. Il est avec le croyant et avec le mécréant. Il est avec le pervers, il est avec le bienfaisant. Mais quand il dit ici, Allah Ta'ala est avec les pieux, et il est aussi avec les bienfaisants, ça veut dire qu'il est avec eux, non seulement de par le fait qu'il les voit et les entend, mais aussi de par le fait qu'il veut leur donner la victoire, qu'il le seconde, qu'il les seconde et qu'il raffermisse leur cœur. Non. Ça ne suffit pas qu'on dise ici, Allah Ta'ala est avec les pieux, c'est-à-dire il les voit et les entend. Ça ne suffit pas. Allah Ta'ala voit tout le monde et entend tout le monde, même les kofars. Mais ça veut dire ici, il les voit et les entend, mais en même temps, il leur donne la victoire. Et il les seconde et il raffermit leur cœur. Il raffermit leur cœur. Exactement comme il a dit dans Sourate Muhammad. Sourate Muhammad, verset numéro 35. Il a dit فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَاونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ. Regardez ici, il a dit ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, les plus hauts. Qu'Allah est avec vous et qu'il ne vous frustrera jamais du mérite de vos œuvres. Regardez ici, il a dit ne faiblissez pas donc et n'appelez pas la paix alors que vous êtes les plus hauts. Quand tu es le plus haut, tu es le victorieux avec ton ennemi. Pourquoi tu appelles à la paix? Non, c'est lui qui doit te demander de faire la paix. Ça, toi maintenant, tu es le plus haut, tu as le dessus sur lui. Il a dit, et Allah est avec vous. Allah est avec vous ici. C'est pas seulement en vous voyant et en écoutant ce que vous dites et ce que vous faites. Mais il est avec vous car il vous a donné la victoire. Non, il a raffermi vos cœurs. Il vous a secondé dans la bataille. Va seconder dans la bataille. Le cheikh ici dit, donc des fois, il dit, des fois, le fait que Allah, l'omniprésence d'Allah, le fait qu'il soit avec des gens, hein, des fois, il est avec eux. Bon, en général, il est avec tout le monde, mais des fois, il choisit certains gens, il est avec eux. Ou bien en les menaçant, ou bien en les secondant. En les secondant. C'est pour ça que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis avec des gens, des fois c'est par, il est avec eux de par ce qu'ils font, et des fois Allah Ta'ala est avec des gens, yani eux-mêmes, pas de par ce qu'ils font, mais eux-mêmes, X et Y, Allah Ta'ala est avec lui. Comment cela? On va voir. Lorsque Allah Ta'ala a dit, un peu plus haut, il a dit qu'il était avec ceux qui le craignent et avec les bienfaisants. Ça, c'est pour montrer qu'Allah Ta'ala, des fois il est avec certaines personnes, c'est pas pour eux-mêmes, mais de par les actes qu'ils font. De par les actes qu'ils font. Quand il a dit qu'il était avec ceux qui le craignaient, donc toute personne qui craint Allah Ta'ala, Allah est avec elle. Quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants, ça veut dire que toute personne qui est bienfaisante, Allah est avec elle. Mais quand il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est avec X ou bien Y, ça veut dire que non, lui spécialement, il est avec lui spécialement. On va donner un exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Lorsqu'il a dit, si vous ne lui portez pas secours, c'est-à-dire Muhammad alayhi sallam, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, il a dit deuxième de deux, Abu Bakr et le prophète Aslam, quand ils étaient dans la grotte, et quand il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Ici, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous, c'est-à-dire, moi, Mohammed, et toi. Moi, Mohammed, et toi, Abu Bakr. Naam. Donc, il a ici, Allah Ta'ala est spécialement avec ces deux. Avec ces deux personnes, Mohammed et Abu Bakr. Pas avec d'autres. Comment pas avec d'autres? Naam. Il est spécialement avec eux par cette aide. Cette aide qu'il n'a donnée qu'à ces deux. Alors que les kuffars, naam, étaient à leur recherche. Et ont donné, et on dit, on donne 200 chameaux. Autrefois, quand on dit à une personne, si tu fais telle ou telle chose, je te donne un chameau, c'est vraiment, c'est comme si aujourd'hui tu disais à une personne, yani, si tu me ramènes X, je te donne yani, la dernière Mercedes. La dernière Mercedes, toute option. Combien qu'elle fait, je ne sais pas, des millions et des millions. Plus, en Algérie, elle fait plus d'un milliard. En Algérie, il y a des voitures qui font 1 milliard 500, 1 milliard et demi. Comme la dernière Mercedes, la dernière Audi, la dernière, 1 milliard, 1 milliard et demi. Non. Maintenant, je te dis, je te donne 100 chameaux. 100 chameaux. Maintenant, je te dis, je te donne 200 chameaux. 100 chameaux, si tu me rappelles. Abu Bakr, 100 chameaux, si tu peux me dire où se trouve qui, où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donne 200 chameaux pour celui qui peut me dire où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est Abu Bakr Siddiq. Mais Allah Ta'ala leur a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Toi et Mohammed, toi et Abu Bakr, je suis avec vous spécialement. Ça veut dire que c'est impossible qu'il peut vous trouver. Non, je suis avec vous, c'est impossible qu'il peut vous trouver. La preuve, ils sont rentrés dans une grotte et les kuffars ont cherché toutes les grottes. Et pour leur prouver qu'ils ne peuvent pas les trouver, ils sont arrivés, ils sont venus aussi à la grotte où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et que, subhanallah al-azim, quand ils ont regardé, ils ont oublié bien sûr, ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire Allah Ta'ala les a empêchés qu'ils descendent un peu le regard, sinon ils les auraient vus. Ils ont vu juste ça en face et un peu plus haut. Il fallait juste qu'ils descendent un peu le regard pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr assis. Mais ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Pourquoi? Car Allah n'est pas avec eux. Allah leur a dit, je suis avec vous. Soyez raffermis, soyez apaisés qu'ils ne pourront pas vous voir. Même s'ils arrivent à cette grotte-là, et effectivement ils sont arrivés à cette grotte, après avoir cherché toutes les grottes, ils n'ont pas pu les voir. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça qu'on dit ici le Cheikh et qu'on dit Abdul Qayyim et les autres, il dit, c'est pas comme vous voyez le film Risala. Il montre devant la grotte qu'il y avait quoi? Qu'il y avait avec le comment ça s'appelle? Avec l'araignée, la toile d'araignée. Non, il n'y avait ni toile d'araignée, ni œuf de pigeon, ni un nid de pigeon. Non. Car s'il y avait une toile d'araignée ou bien un nid de pigeon, dans ce cas, n'importe quelle personne qui aurait été dans la grotte, non, ça veut dire que avec une toile d'araignée, personne ne peut dire qu'il y a une personne à l'intérieur. Mais ici, Allah Ta'ala veut dire et veut montrer que sans toile d'araignée et sans nid de pigeon, sans rien, sans aucun sabab, je peux empêcher les gens de vous voir. C'est ça la grande mu'jiza. S'il y a une toile d'araignée, il y a le nid de pigeon, il n'y a plus de mu'jiza, il n'y a plus de miracle. N'importe quelle personne qui serait à l'intérieur, moi si j'étais à l'intérieur et qu'il y avait une toile d'araignée, même les kuffars ne peuvent pas rentrer, ils disent qu'il y a une toile d'araignée. Mais là, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Ni toile d'araignée, ni nid de pigeon, et ils ne pourront pas vous voir. Je vais quoi? Les dissuader pour qu'ils repartent chez eux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement cette omniprésence spéciale d'aide que Allah Ta'ala donne à certaines personnes. C'est exactement lorsque Haroun et Moussa, lorsque Moussa spécialement a dit à Haroun, il lui a dit, lorsque Allah Ta'ala a dit à Moussa à Haroun, il leur a dit, allez chez Pharaon, allez chez lui, il est devenu tyran, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsque Allah Ta'ala a dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? أن يفرض علينا أن يطغى. Il leur a dit, allez chez Pharaon. Ils ont dit, oh notre Seigneur, nous craignons quoi? Nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Quand Allah Ta'ala, il a dit, ne craignez rien. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Ne craignez rien. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Allah Ta'ala a ajouté, j'entends et je vois. Parce qu'il dit, je suis avec vous, peut-être certains vont croire qu'il était avec eux sur terre. Ils étaient donc trois. Moussa, Haroun et Allah. Non, il leur a dit, je suis avec vous, de par le fait que j'entends ce qui se passe, et de par le fait que je vois tout ce qui se passe. Donc, je suis avec vous aussi, avec quoi? Non seulement avec ma science, mais avec aussi, yani, le fait que je vous seconde. Le fait que je vous seconde. Non. Est-ce que si Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, va chez X ou Y des tyrans, des grands tyrans, va chez lui et il te dit, ne crains rien. J'entends tout ce qui se passe et je vois tout ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un aura peur donc? Si Allah Ta'ala me disait ça, est-ce que j'aurais peur? Si je sais que Allah m'a rassuré, alors je sais qu'il entend et il voit. Il me rassure encore, il me dit, va, j'entends et je vois. Ça veut dire que quand j'entends qu'il veut te faire quelque chose de mal, je te défendrai. Quand je vois qu'il veut te faire quelque chose de mal, n'aie pas peur, ne crains rien. Je suis avec toi. Quand je te dis j'entends et je vois, je te rassure donc, j'apaise ton cœur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. J'entends tout ce qui se passe et je vois tout ce qui se passe. Ils ne peuvent rien te faire. Non, s'il pouvait dire une chose que je n'entendais pas, là, ça aurait été grave, j'aurais eu peur. Il se peut que Pharaon dise quelque chose à ses soldats, il leur dit tuez celui-là, et Allah Ta'ala ne va pas les entendre. Donc j'aurais peur. Ils peuvent me faire du mal. Ou bien, ils peuvent se cacher, préparer quelque chose contre moi, et là, ils ne voient pas. Là, j'aurais vraiment peur. Mais maintenant que je sais que Allah entend tout, et voit tout, et que d'un autre côté, je sais que Allah a la grande puissance, et il peut tout faire, donc dans ce cas, j'aurai, Inch'Allah, le cœur apaisé à 100%. On arrête Inch'Allah Ta'ala ici. Il faudrait qu'on apprenne à faire le cours, à faire un cours seulement d'une heure et des questions-réponses seulement d'une heure. Inch'Allah, il faudrait qu'on apprenne ça. Na'am bi'idhnillahi Ta'ala. Donc, on va s'arrêter Inch'Allah Ta'ala ici. Et si j'ai dit quelque chose de juste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit quelque chose de faux, na'am, ça vient de mon shaytan. On va se rencontrer Inch'Allah Ta'ala dans un quart d'heure. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Donc la première question. Salam alaikum. Comment faire pour faire partie des serviteurs dont Allah Ta'ala est toujours avec eux? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh.
Inch'Allah, deux questions, c'est mieux, tfadal.
Deuxième question, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Une personne à qui l'on a dit « Tu te caches des gens, mais pas d'Allah » a commencé à faire ses péchés publiquement en disant qu'il n'a pas peur des gens et qu'il n'est pas hypocrite. Que peut-on lui répondre? Toi, Dachir.
Non, en principe. Une personne, quand on lui dit comme ça, c'est pour que qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle arrête de quoi? De faire les péchés. Pour lui dire que quand tu les fais en cachette, Allah subhanahu wa ta'ala sait aussi ce que tu es en train de faire et les anges notent aussi. Mais ici, ça a donné l'effet quoi? Contraire. Car maintenant, en faisant comme ça devant tout le monde, ça devient plus grave. Car ça rentre dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera Yom al-Qiyama à tout pécheur, à toute la Ummah, sauf celui qui quoi? Sauf celui qui, ce qu'on appelle en arabe, illa al-mujahirin. Ceux qui font ça comme ça devant tout le monde. Donc, ça n'a pas donné le résultat escompté. C'est pour ça que, si on rencontre cette personne ou là, il faut lui faire nasiha bidillahi ta'ala. Nasiha, et lui montrer aussi que qu'elle fait aussi, c'est très grave. Et que, moi, en te disant qu'il ne faut pas se cacher, Je voulais dire que il fallait arrêter les péchés et non pas les faire ou là maintenant les faire comme ça devant tout le monde car ça devient plus grave. Non. Pour la première question, comment faire yani, partie des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez lire par exemple l'ayat de Sourate Al-Kahf. Ah, quand j'ai dit Sourate Al-Kahf. Sourate Al-Furqan. Non. Attendez, je vais être sûr si c'est Sourate Al-Furqan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, يعني, il dit qui sont عباد الرحمن, qui sont les serviteurs de Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont-ils exactement? Et il a commencé à citer, non, à citer يعني, les qualités qu'ils ont, les qualités qu'ils ont. Lorsqu'il a dit وعباد الرحمن, par exemple, الذين يمشون في الأرض هونا, je crois Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a cité 6 ou 7 versets. 6 ou 7 versets. On va les citer comme ça très vite. On va les citer, inshallah ta'ala, très vite. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ensuite, il a dit, il a dit aussi, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, ce sont-là, celui qui voudrait connaître l'explication de ces versets-là, qu'il rentre yani, dans le, là où il y a le tafsir, et il lit les huit qualités ou bien les huit descriptifs ici que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Ibad al-Rahman. Entre autres, yani, il a cité qu'il ne faisait pas le shirk, qu'il ne faisait pas la zina, que yani, quand il dépense, ils sont ni avares, ni ils jettent l'argent par la fenêtre. Que ce sont ceux qui passent aussi la nuit à prier, qui prient beaucoup. Et il a dit aussi que. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit aussi. Et ceux qui disent Rabbana nasrif anna adab jahannam, ceux qui font des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant yani, qu'il éloigne de adab jahannam, qu'il éloigne de adab jahannam. Il a dit aussi que. Bon, j'ai et ce qui va leur faire changer tout ce qu'ils ont fait de mal en bien, tout ce qu'ils ont fait de mal en bien. Il a dit aussi qu'ils n'assistent pas aux faux témoignages, ils ne font pas et ils n'assistent pas à toute chose qui est interdite. Ils n'assistent pas à toute chose qui est interdite. Non. Et ce sont eux aussi ceux qui disent, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne de leurs épouses et enfants, ce qui fait la joie, ce qui fait la joie de leurs yeux.
Donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Mon époux et moi avons une question sur la aqida à vous demander. Allah Ta'ala est avec sa création, avec sa science, car il est fils Sama, au-dessus de toute chose, avec son essence. Mais est-il possible qu'Allah Ta'ala se trouve dans sa création? Comment expliquer le fait qu'il descende au dernier tiers de la nuit, au premier ciel, et que Yawm al-Qiyama il viendra? Est-ce que cela implique qu'il entre dans la création? Aussi, cher, pouvez-vous juste dire si l'élévation d'Allah au-dessus du trône est un attribut d'acte ou d'essence? Barakallahu fikoum وجزاكم الله خيرا. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Jazakum Allah khayran pour vos cours. Peut-on dire qu'Allah Azzawajal est avec nous d'une présence particulière? Jazakum Allah khayran pour votre réponse et puisse le Tout-Puissant vous rajouter de la science. Tfadda, Cheikh.
Si on veut dire par particulière que ce n'est pas l'omniprésence générale. Non, même si on dit, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que la générale, Allah est avec tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde. De par sa science, de par il entend ce qu'ils disent, de par il voit ce qu'ils sont en train de faire. Et il connaît aussi ce qu'il y a, on sait ce qu'il y a dans les cœurs. De par ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde. Mais l'omniprésence particulière, c'est qu'il soit avec toi. De par quoi? De par son aide, de par son secours, de par sa victoire, de par le fait qu'il raffermisse ton cœur. Si c'est comme ça, hein, c'est juste, Inch'Allah Ta'ala, de dire que c'est une omniprésence particulière. Pour la première question, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend, qu'il descend au premier ciel, chaque nuit, ou bien qu'il vient Yom Al-Qiyama, ou bien, hein, ce qu'il faudrait savoir, c'est que hein? Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, bien tout ce qu'il a comme attribut, malgré cela, il ne ressemble en rien à ses créatures, ni le contraire. Quand on dit il descend, on sait ce que c'est la descente. Mais comment? Comment? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, nous, quand on dit il est descendu, on n'a pas dit il descend et il quitte le trône. Ni on a dit, il descend et il ne le quitte pas. On dit Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il descend. T'en donne un exemple. Je l'ai donné déjà une fois cet exemple. J'ai donné une fois. Quand tu allumes chez toi la télévision, le speaker qui parle, ou l'acteur, ou je ne sais pas qui, il est là devant toi. Tu dis, voilà l'acteur, il est là. Et pourtant, en vérité, il n'est pas là. Il est peut-être à des centaines de kilomètres loin de chez toi. Il est là, il est dans le studio, en vérité, avec son essentielle entité. Mais là, il est devant toi, tu peux dire sans mentir que l'acteur est là, là en face de moi. Ça, c'est juste un exemple. Qu'en est-il par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala peut être très près, très proche en étant le plus haut. Et il est le plus haut en étant quoi? En étant le plus proche. En étant le plus proche. C'est pour ça qu'on m'a dit une fois, ou alors plusieurs fois, que je pense que dans la Aqida, c'est bien de répéter. On m'a dit que Allah subhanahu wa ta'ala pouvait quoi? Pouvait joindre entre des choses contradictoires. Et nous, non. Nous, on ne peut pas être par exemple le premier et le dernier. Mais Allah ta'ala, c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Allah ta'ala, c'est lui al-zahir, al-batin, c'est lui l'accachant, c'est lui l'apparent, c'est lui le caché. Et ça, ça ne peut pas être chez les personnes. Bien tu es caché ou bien tu es apparent. Et comme ça. Pourquoi? Parce que rien ne lui ressemble. Donc c'est possible que lorsqu'il descende, hein, il descend tout en étant le plus haut. Ça ne veut pas dire, quand il descend, que ça veut dire alors le trône va être au-dessus de lui. Quand on va dire il descend au premier ciel, donc quelqu'un va dire, donc les six cieux, les autres six cieux vont être au-dessus de lui. Si on dit ça, ça rentre dans le coffre. Pourquoi? Car il n'est plus le plus haut. Il y a des cieux qui sont au-dessus de lui. Donc, il faut être comme les selfs. On dit seulement ce qu'on a appris sans ajouter ni retrancher. Est-ce que l'on descend le tiers de la nuit, chaque nuit? Non, il descend. Est-ce que quand il descend le ciel? Non, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il descend. Est-ce qu'il rentre dans la création? Impossible. Impossible. Sinon, on va rentrer dans une secte qui s'appelle Wahdat al-Wujud de Ibn Arabi et Tilimsan et Ibn al-Farid et qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans sa création. Quant à l'istiwa, la plupart des savants disent que c'est un attribut de l'essence. Non. La plupart des savants disent que c'est un attribut de l'Iphone, j'ai dit de l'essence, de l'acte. Iphone, là, je voulais dire de l'acte. Pourquoi? Car, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, khalaqa, samawati wal-ard, ou sitadiyam, il a dit, sitadiyam, thumma stawa l'âge. Ensuite, il s'est établi. Ça veut dire, il n'y avait pas établissement. Ensuite, il y a eu établissement. Donc, il a fait quelque chose. C'est un attribut de l'acte. Donc, la plupart disent que l'istiwa est un attribut de l'acte. Mais malgré cela, certains savants en disent que l'istiwa fait partie des attributs qui ont les deux côtés, qui sont de l'acte, qui sont de l'essence. Comment cela? Ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, avant de s'établir, hein, donc, ensuite, il s'est établi, c'est devenu quoi? Il a fait un acte, c'est un attribut de l'acte. Mais après s'être établi, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on a ni dans le Coran ni dans la Sunna, qu'il a quoi? Qui s'est disons, déstabli, si je puis dire, de l'acte, du trône. Il n'y a pas ça. Tout ce qu'on sait, il s'est établi. Il n'y a pas le contraire. Donc, ils ont dit, c'est devenu, maintenant, istiwa, c'est devenu quoi? C'est devenu un attribut de l'essence. Car Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il s'est établi sur le trône, hein, on n'a ni un verset, ni un hadith qui dit que, yani, il a fait le contraire. Il s'est établi, khlas. Il est toujours établi. En ce sens, certains ont dit, c'est aussi un attribut de l'essence. Wallahu a'lam.
Donc, question suivante. Salam alaikum. Je souhaite vous exposer ma croyance. Pouvez-vous me dire si elle est en accord avec la croyance des salafs et notamment de Cheikh Ibn Taymiyyah? Je crois que le néant est l'absence de création et que l'univers est fini, c'est-à-dire que les notions d'espace, de temps, de direction ont une limite. Elles s'arrêtent là où l'univers prend fin. Ceci dit, je crois qu'en dehors de l'univers, il y a le néant, et Allah se trouve dans ce néant. Allah est dans la direction ascendante, cette direction est créée dans le cadre de la création et devient non existante en dehors de la création. Barakallahu fikoum. Cher, je vous copie tout de même le texte sur le salon, car ça n'a pas l'air d'être simple. Que vous puissiez le relire, inshallah. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Vous avez dit dans le cours que nous serons jugés également pour ce qui est dans notre cœur. Mais j'ai lu une fatwa disant que l'homme ne sera pas jugé pour ses pensées, comme le dit ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah excusera aux fidèles de ma communauté le mal que leurs âmes leur ont inspiré, tant qu'il ne sera pas traduit ni en parole ni en acte. Comment faire la différence entre le waswas et nos véritables intentions ou ce qu'on a dans nos cœurs? Et la personne chère vous demande également s'il est possible qu'on pose plusieurs questions, si c'est en rapport avec le cours, ou alors est-ce que c'est limité à une seule question par personne? Tfadal cher.
Que je voulais dire. Non, pour le fait de poser une ou deux questions, Allahu alam, Allah, je sais pas. C'est à vous de voir, femme. C'est à vous de voir. Si vous posez deux questions, il faudrait que les questions aient rapport avec le cours. Quand c'est deux questions, il faudrait que ça ait rapport avec le cours. Ensuite, nous, on voit. Des fois on lit une, des fois deux, ça dépend. Non. Donc, pourquoi j'ai dit c'est vous qui voyez? Moi, je ne sais pas combien de questions vous avez. Pour que tu puisses faire les calculs, est-ce qu'on peut lire une question ou on peut lire deux? Et je dis encore, si jamais une personne écrit deux questions, il faudrait qu'elle mette dans sa tête que c'est la première qui est la plus importante pour celle qui a posé la question. Car il est possible, comme j'ai dit, qu'on ne lui lise que la première question. Donc elle ne va pas dire, ah, moi je voulais la deuxième. Donc elle commence par la plus importante. Comme ça, la deuxième, si elle n'est pas lue, elle n'est pas lue. Donc je dis, pour la première question, qui parlait de néant, etc., je lui dis franchement que je n'ai pas la réponse à cette question, car je ne l'ai pas bien conçue. Au moins, si c'était en arabe, peut-être que ça m'aurait un peu aidé. Mais comme ça en français, c'est difficile. Mais je veux dire, ou là, je peux dire à celui qui a posé cette question, Inch'Allah Ta'ala, que lorsqu'il a dit, je crois que le néant est l'absence de création. Je lui dis que justement, Ibn Taymiyyah, dit que le néant, c'est une chose. Non, le néant lui-même, le néant. Non, néant, ça veut dire il n'y a rien, c'est le néant. Le néant lui-même, c'est une chose. Et c'est une création. Il n'y a pas de néant comme ça. D'où il est venu ce néant? Le néant lui-même, c'est une chose et une création. Et ce que je veux dire aussi ici, c'est que, yani, si on prenait tout l'univers, je crois que ça se. Attendez, comment qu'on dit? Je crois que ça a un petit rapport avec ce qu'a dit ici le frère ou la sœur. Si on prenait tout l'univers, on allait le comparer, on va comparer l'univers, tout l'univers, à par exemple à un ballon. Tout l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala serait autre chose que cet univers. Non, Allah, ce n'est pas l'univers. C'est le créateur de l'univers. C'est-à-dire que nous, quand on prend la Terre, les cieux, les galaxies, les astres, les soleils, les mers, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a. Et tout le vide ensuite qui reste, tout ça, c'est seulement l'univers. Donc, il y a Allah et il y a l'univers. Vous comprenez? Il y a le créateur et la création. Ça, deux choses vraiment séparées l'une de l'autre. Deux choses vraiment séparées l'une de l'autre. Voilà, inshallah ta'ala. Je crois que ça se rencontre quelque part avec ce qu'a dit le frère ici. Wallahu alam. Wallahu alam. Ensuite, pour la personne qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous jugeait pas pour nos pensées, je dis, c'est vrai, le hadith qu'a cité la personne est authentique. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le Coran, La yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah va vous juger, yu'akhidukum bima kasabat, d'après ce que vos cœurs ont fait. Oula, bima kasabat qulubukum. Et pour Inch'Allah, qu'il n'y ait pas de contradiction entre le verset et le hadith, alors on va dire ce qui te passe par l'esprit. Sans que tu veuilles, toi, tu ne seras pas jugé pour lui. Comprenez? Quand maintenant, avant de dormir, je suis assis ou là, il y a une idée comme ça qui me passe par l'esprit. Non. Une idée qui n'est pas bien. Je pense à une chose qui n'est pas bien. L'alcool, zina, je ne sais pas quoi. Et ça passe et ça part. Allah Ta'ala ne va pas me juger. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui me commande en ces choses-là. Mais, si c'est moi qui fais appel à ces pensées-là, je m'assois sur moi, je vais m'étaler sur mon dos, dans mon lit, et je vais commencer à penser. Je vais commencer à penser, je suis dans un bar, je lui dis donne-moi une bière, ce qui me ramène, je lui dis non, elle n'est pas froide, ramène-moi une autre. Et je suis en train de penser comme ça, je m'imagine en train de boire. Dans ce cas, j'ai des péchés. Pourquoi? Parce que j'ai fait des choses, yani mon cœur a fait des choses, mon cœur a fait des actes, a fait des actes. Ça m'a plu. Mais si par contre l'idée vient d'elle-même et que par plus forte raison je la chasse, ce qui me vient en mal, je le chasse. Je le chasse, dans ce cas, j'aurai même des récompenses pour avoir fait le djihad dans mon nefs. Mais toutes les mauvaises idées, que c'est nous qui les interpellons, et ça nous plaît quand on pense à ces idées, on ne les chasse pas, non, dans ce cas, on aura des péchés, bi'idhnillah ta'ala.
Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Jazakumullah khairan pour vos cours. Pouvez-vous nous parler sur un écrivain qui s'appelle Hassan Asaqaf, qui a écrit un livre, El-Bishara Wal-Isaf, où il cite soi-disant des divergences dans l'attribut de l'élévation d'Allah entre les savants. l'Albani, Ibn Uthaymin et Ibn Taymiyyah, rahimahumullah. Pouvez-vous nous faire un jour le livre de El Rollo de Cheikh El Albani, rahimahullah? Question suivante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah vous récompense pour vos efforts, ya Cheikh. Un non-musulman qui s'intéresse à l'islam a rêvé qu'il faisait la da'wah en utilisant le Coran à un juif et son fils. Que pensez-vous de ce rêve, sachant qu'il a rêvé avant le fajr et que son rêve était clair? Jazakumullah khairan. Tfadal, Cheikh.
Muslim, est-ce que tu peux me répéter le nom de la personne ou là, le nom du savant, Ada, le nom du savant? Tu as dit Saqqaf. Avant lui, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit Wahda. Et deuxièmement, celui qui a rêvé. Celui qui a rêvé. Tu as dit c'est un musulman ou un non-musulman? Tfazzal.
C'est un non-musulman, cher. Un non-musulman qui s'intéresse à l'islam. Tfadal, cher.
Non. Pour la première question, chauffe. Pour la première question, Hassan Saqqaf. Il faudrait, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, savoir une chose très importante. Laquelle? C'est qu'il y a deux Saqqaf. Saqqaf, c'est le nom de famille. Il y a deux personnes très connues qui s'appellent Saqqaf. Un qui s'appelle Hassan Saqqaf, celui-là, et l'autre qui s'appelle Ulwi Ibn Abdelkader, Ibn Abdelkader Saqqaf. Et celui-là dont vous me parlez, vous, il me semble, c'est celui-là qui a un livre qui s'appelle Les contradictions de l'Albanie. Les fautes et les contradictions. Celui-là, c'est quelqu'un qui fait partie des chiites, même s'il dit non, moi je suis sunna, etc., mais c'est pas vrai. Il est avec les chiites, il les aime, le deuxième, celui que j'ai cité, Ulwi Abdelkader. Alors, rappelez-vous Abdelkader. Celui-là, c'est quelqu'un de Sunna ou Jama'a. D'ailleurs, il a un livre, Masha'Allah, qui n'a pas d'égal. Masha'Allah, sur Sifat, sur les attributs. Qui s'appelle comme ça? Il s'appelle les attributs. Sifat Allah. Comme ça, il s'appelle. Il est en arabe. Hein? Celui-là, yani, il est Masha'Allah. Quant au premier que tu as cité, toi, Saqqaf, c'est celui qui est contre Al-Sunna al-Jama'a, contre l'Albani, contre les grands savants d'Arabie Saoudite, comme ça. Hein? Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, nu'amilahu bima yastahiq. Pour la deuxième question. Non. C'est lui qui a dit que l'Albani ou hein? C'est pas vrai. C'est pas vrai quand il a dit que Cheikh Ibn Taymiyyah Ibn Uthaymeen l'Albani, yani, l'aqida. Ils n'ont pas la même aqida, qu'il y a des divergences. C'est pas vrai. Elles sont là, tous, ils ont la même aqida. Ils ont la même aqida. Cette personne, l'Albani lui-même, il a dit qu'il avait des contradictions. Il cherche les contradictions des gens et des savants. Ou alhamdoulillah, ou alhamdoulillah, yani, cet homme, yani, ces livres n'ont jamais marché. Ces livres ne se vendent pas, bi-idhnillah ta'ala. Et pourtant, presque chaque semaine, il écrit un livre. Presque chaque semaine, il y a un livre qui sort dans les maisons d'édition. Il n'y a personne, bi-idhnillah ta'ala, qui achète ces livres. Et la deuxième question, non, pour la personne qui n'est pas encore musulmane, qui a dit que, reprends-moi si j'ai mal entendu, reprends-moi musulman, qui a dit que elle a rêvé qu'elle était en train yani de faire chour la da'wa, faire la prédication à son fils ou à quelqu'un, ou bien un juif, en lui montrant, je crois, le Coran ou quelque chose comme ça. Je lui dis que ceci, c'est un homme a rêvé qu'il faisait la da'wa en utilisant le Coran, un juif. C'est son fils. Que pensez-vous de ce rêve, sachant que. Non, ce rêve, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, est un rêve, yani, très clair. C'est un rêve, yani, très clair et très explicite. Très explicite. Cela veut dire, bi-idhnillah ta'ala, que cette personne, yani, va rentrer et embrasser l'islam. Cette personne ne va pas tarder, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, et embrasser l'islam, et peut-être que ça veut dire aussi que Allah ta'ala va lui donner un haut statut au point qu'il va commencer à faire la prédication. Il va commencer à yani, faire la da'wah et la prédication aux gens. Et pour faire la da'wah, vous savez qu'il faut avoir de la science. Donc cette personne va, inshallah ta'ala, s'intéresser à l'islam, s'intéresser à l'apprentissage. Et ensuite, Allah ta'ala va guider beaucoup de gens et va faire cette personne comme une cause pour la guidance de beaucoup de gens. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala exaucer ce vœu et ce rêve. Fadwal.
Question suivante. Assalamu alaikum. Hafizakumullah ya shir. Si une femme ne porte pas le voile et sort donc dehors, mutabarija, rentre-t-elle dans les personnes qui font des péchés ouvertement? Rentre-t-elle dans le hadith où Allah Ta'ala ne pardonne pas? Jazakumullah khayran ya shir. Barakallahu fikum ajma'in. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah shir. Qu'Allah vous récompense pour vos douros. Quand on sait qu'une personne commet un péché précis et qu'on lui demande des comptes pour cela, mais que celle-ci n'accepte pas nos conseils et nie car elle dit qu'elle n'a pas à dévoiler ses péchés, entre parenthèses, alors qu'elle sait que nous le connaissons, a-t-elle raison de continuer à cacher son péché malgré que cette personne sait qu'il a été dévoilé? Barakallahu fekoum. Tfadal cheikh. Quand on sait qu'une personne commet un péché précis et qu'on lui demande des comptes pour cela, mais que celle-ci n'accepte pas nos conseils et nie, car elle dit qu'elle n'a pas à dévoiler ses péchés. Entre parenthèses, alors qu'elle sait que nous le connaissons, elle parle du péché. A-t-elle raison de continuer à cacher son péché malgré que cette personne sait qu'il a été dévoilé? Tfadashir.
Chauffe Wesmak Muslim, moi, quand je veux faire des nasihas à quelqu'un, je ne suis pas obligé de lui dire que, de le pousser à ce qu'il nous dise, ce qu'il est en train de faire. L'essentiel, c'est quoi? C'est que je lui fasse savoir que je suis au courant. C'est tout. Je lui fais savoir que je suis au courant. Quand je veux lui faire la nasihas, je ne le prends pas devant les gens, en tête à tête. Et je lui dis, écoute, je suis au courant de ce que tu fais. Telle et telle chose. On m'a rapporté, des gens fiables m'ont rapporté que tu as fait telle ou telle chose, ou là, je t'ai vu une fois dans telle ou telle chose, ou bien je lui ai écrit une lettre où je lui ai dit, voilà, ceci, cela. Donc, c'est pas la peine que j'attende de lui qu'il dise, non, c'est pas vrai, ou bien que je lui dise, donc, dis-moi ce que tu fais. Non. Parce que moi, je sais ce qu'il fait. Je lui donne les nasihas. Il lui dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait jamais, Annie, tu peux mourir le même jour où tu fais ça. Tu peux mourir comme ça, en pleine désobéissance. Et que les gens viendront, Yom al-Qiyama, d'après la façon dont ils meurent, comme dans le hadith de Muslim, la personne vient, Yom al-Qiyama, avec la même façon dont elle est morte. Si elle meurt dans la zina, elle vient, Yom al-Qiyama, en faisant la zina, et comme ça. Donc, Annie, comme j'ai dit, c'est pas la peine de lui dire, yani, qu'il me dise ce qu'il est en train de faire et pour que je le pousse à ce qu'il nie, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, sauf si j'ai pas bien compris la question. Non. Et pour la personne qui sort mutabarrija, ce qu'il faudrait qu'elle sache, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, pour la femme qui sort mutabarrija, quand on dit mutabarrija, ça veut dire sans le voile. Ce qu'il faudrait qu'elle sache, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est que si jamais elle meurt comme ça, elle meurt dans un grand péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kasiyat ariyat, a dit, il y aura des femmes qui seront vêtues dans cette dunya, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont dénudées. Parce qu'elles sont vêtues en mettant une jupe ou là je ne sais pas quoi, mais c'est pas le libes, le vêtement, disons, que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la femme qu'elle mette. Alors il a dit, la yadkhuluna al-jannah. Il a dit, celles-là ne vont pas rentrer au paradis. Et que le paradis sera, yani, à telle et telle distance d'elle, de ces femmes-là. المهم، ce qu'il faudrait qu'elle sache aussi, c'est que celle qui sort comme ça, mutabarrija, c'est qu'elle rentre dans le verset. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Quand cette femme sort comme ça, surtout si elle s'est embellie encore, est-ce que elle va pas attirer le regard des gens, et surtout des croyants? Et encore, en attirant le regard, est-ce qu'elle va pas être une fitna? Une fitna pour le jeune, une fitna pour celui qui n'est pas marié, une fitna pour X, pour Y. Non. Et chaque personne qui va faire la fitna à un croyant, celle-là, Allah Ta'ala a dit que c'est Jahannam qui l'attend. Celui qui l'a dit, c'est le feu de Jahannam, pas seulement Jahannam. Donc je conseille à toute personne qui n'est pas voilée de bien s'asseoir toute seule et de méditer. Et de dire, jusqu'à quand moi, j'ai peur des gens? Jusqu'à quand moi, je suis complexé devant les gens? Est-ce que ces personnes-là devant lesquelles je suis complexé ou j'ai peur, est-ce que demain ils vont me sauver? Demain, quand Allah subhanahu wa ta'ala va dire, j'ai jeté cette personne en enfer, est-ce que X et Y des gens vont te faire l'intercession, vont aller chez Allah et lui dire, Ya Allah, pour nos beaux yeux, ne jette pas cette personne en enfer? Tout le monde, Yawm al-Qiyamah, va se désavouer de toi. Tout le monde. Même si Allah ta'ala va dire, vous connaissez cette personne? Non, non, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vu. Nefsi, nefsi, j'essaye moi comment me sauver, c'est tout. Ne me parlez pas d'une autre personne. Alors, il faut bien méditer, hein, et se dire que c'est vraiment un grand péché de sortir comme ça, yani, dévoilé. Et si jamais la personne meurt dans la rue, ou bien crise cardiaque, ou bien je ne sais pas quoi, elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans voile, comme ça. C'est vraiment, vraiment grave pour elle. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider nos soeurs et nos filles à ce qu'elles se voilent bi'idhnillahi ta'ala et leur faciliter cette tâche. Tfadlal.
Une question suivante. Et le frère cher qui a posé la question sur le néant, il dit, peux-tu dire au cher que lorsque je dis que Allah est dans le néant, c'est-à-dire qu'il est seul en dehors de l'univers, sans aucune autre création. Barakallahu fik. Et question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permis pour une sœur de rendre visite à un frère malade qui est à l'hôpital? La sœur serait avec son mari. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans ma ville, il n'y a aucune mosquée salafia. Lorsque j'arrive en avance pour la prière du vendredi, l'imam de la mosquée fait un discours avant le adhan. Est-ce une innovation? Puis-je ne pas écouter et lire le Coran? Quel comportement adopter? De plus, j'ai toujours assisté à sa khutba en suivant les hadiths qui nous disent d'écouter le sermon. Comme ce n'est pas une mosquée salafia, dois-je écouter son sermon? Quel comportement adopter? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve ainsi que tous les musulmans. Tfadal cher.
Pour la deuxième question, inshallah ta'ala, le dars c'est le dars c'est disons là, monsieur le cours. Hein? Le dars. Disons, le prêche. Le prêche que l'on fait avant la khutbah. Le prêche que l'on fait avant la khutbah. Alors, normalement, il est interdit de le faire. Quelque chose comme ça. J'ai essayé de ne pas yani, être en face de lui comme ça pour ne pas me mettre dans l'embarras. Pour pas qu'il dise, donc celui-là, il est en face de moi, en train de lire le Coran. Donc celui-là, yani, il me cherche, comme on dit, il me cherche la petite bête. Non, je me mets quelque part là où je suis loin de lui, où là, il ne me voit pas. Et je suis en train de lire le Coran, bien faire le tisbih, et comme ça. Et maintenant, quand il monte sur le mimbar, quand il dit quelque chose qui a un rapport avec le Coran et la Sunna, tu écoutes et tu apprends. Et quand il dit quelque chose qui sent fausse, etc., tu dis astaghfirullah et tu te tais sans faire la fitna. Et si tu peux, quand il termine, tu lui donnes une nasiha. Tu lui dis, vous avez dit ça alors que le hadith dit le contraire, et comme ça. Et comme ça, biznata. Sinon, tu écoutes, c'est tout. Tu ne parles pas, tu écoutes. Certains savants ont dit que le vendredi, lorsqu'ils ils ont cité des affaires de salaf, ils ont dit quand le khatib est sur le minbar et qu'il dit des choses qui sont contraires, donc il commence à parler de la politique, il commence à ceci, cela, certains ont dit que c'est permis de quoi? C'est permis d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala entre nous et yani, Allah subhanahu wa ta'ala, pas devant les gens. C'est-à-dire juste avec mes lèvres, sans que celui qui est à droite ni à gauche ne m'entende, seulement entre mes lèvres. Par exemple, lui, il est en train de parler de, je ne sais pas quoi, il est en train de parler de n'importe quoi, des choses yani, qui n'ont rien à voir avec l'islam, etc. Ou là, qui dit, par exemple, il dit, il faut se rebeller contre les Ottomans, contre les dirigeants musulmans, ce sont des tyrans, etc. Quand il dit ça, moi, je dis entre mes lèvres, je dis, subhanallah, alhamdoulilah, Alhamdoulilah, en m'écoutant moi-même, sans que les autres m'écoutent. Ceux qui ont dit ça, je vous ai dit, il y a des athas des salafs, des athas des salafs authentiques, qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné à écouter à ce genre de choses quand il nous a dit d'aller au vendredi. C'est pour raffermir les cœurs, c'est pour parler de l'au-delà, c'est pour nous faire rapprocher d'Allah, mais pas pour nous dire des choses qui sont contraires à la sunna. Mais dans tous les cas, je dis dans tous les cas, c'est interdit de quoi? C'est interdit de faire la fitna et de parler avec les gens et de dire celui-là qu'est-ce qu'il dit ou là. Si tu veux, tu peux dire à l'imam, tu peux lui dire, tu te lever et tu lui dire, Ptaqillah, vous parlez d'une chose qui n'a rien à voir ou là. Ça, tu peux, entre toi et l'imam. Et tout le monde entend. Mais avec les autres gens, non. Et certains savants, je l'ai cité ça aussi dans ma thèse de Jumu'ah, certains savants, ont permis aussi, quand l'imam déraille, quand il déraille, il sort de la khutbah, ont permis de faire salat nafila. Ils ont dit, tu te lèves et tu fais deux rak'at. Et deux rak'at, non, il vaut mieux yani, faire nafila que d'écouter des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, etc. Mais je conseille, yani, surtout pour les deux rak'at, je conseille de ne pas les faire comme ça, surtout de notre temps-là, où ça risque de sûrement de faire fitna et qu'il y ait même une bagarre dans la mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vous ai dit, juste dit, que voilà ce que disent certains savants, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Pour la première question, pour la première question, la personne qui dit est-ce que c'est possible, une sœur dit est-ce que c'est possible d'aller rendre visite à un frère qui est malade. La réponse, c'est permis, bi'idhnillah ta'ala. C'est permis pour une sœur avec son mari ou bien son frère visite à quelqu'un qui est malade. Exactement comme a fait Aïcha, radiallahu ta'ala, et le hadith visiter son père qui était malade et il y avait aussi avec lui Bilal qui était malade. Elle a dit, Kifa tajiduka abi? Comment vas-tu? Elle s'est tournée à Bilal. Et toi, comment vas-tu? Non. Donc, c'est permis à une femme de rendre visite à un homme s'il est malade, à condition qu'elle ne soit pas avec lui en tête à tête. À condition qu'elle ne soit pas avec lui en tête à tête.
Alors, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah ya Sheikh. J'ai souhaité bien vous questionner sur le livre El Madrasa al-Nabawiya al-Askariya, écrit par le docteur Mohamed Abdelkader Abou Faris. Connaissez-vous ce livre et est-il bénéfique? Connaissez-vous cet auteur? Barakallahu fikoum wa jazakumullah khairan. Question suivante. Salam alaikum, cher. Comment une femme adulte doit bien se laver de son urine? Je sais que la question paraît sans pudeur, mais la sœur n'arrive pas à se laver correctement. Parce que cela est plus difficile que l'homme, doit-elle ouvrir ses parties ou juste se laver comme ça? Si par exemple elle se laverait avec un gant de toilette de son urine, faut-elle qu'elle ouvre ses parties ou juste par-dessus, car elle a des waswas pour se laver, elle ne sait pas s'il faut ouvrir ou pas. Barakallahu fikoum. Donc je demande au frère, Inch'Allah, de donner le titre du livre en arabe au frère Akh Mohamed 64, Inch'Allah. Tfadal, cher. Du moins, cher, je vous donne la phonétique, Inch'Allah. Je vous colle la phonétique. Tfadal, cher.
Le livre Madrasa Nabawiya al-Askariya, non. Déjà, si vous lisez le titre, Madrasa, l'école, Nabawiya prophétique, militaire, Askariya, vous comprenez déjà que hein, Askari, ma Askari, c'est déjà militaire, militaire. Hein, vous avez une idée du livre. La sirah du prophète, côté militaire. Des militaires. Et maintenant, si vous allez voir hein, qui c'est celui qui a écrit là, ce livre-là, vous allez trouver que c'est quelqu'un qui était ancien député, quelqu'un qui avait des relations avec Zaïm al-Qaïda et qui ceci, cela. Donc, c'est un livre que il faudrait non seulement ne pas lire ou là, mais encore mettre en garde contre. Mettre en garde contre. Non. Car c'est un livre, qui est basé sur le djihad, de ceci, de là, qui parle de ces choses-là. Non. Donc je ne le conseille pas, Inch'Allah ta'ala, ce livre, Ibn ta'ala. Regardez-moi un livre très connu dans la Syrah, très connu, qui a eu un prix d'Arabie Saoudite, qui s'appelle Rahiq al-Makhtoum, le nectar parfumé. Un livre où vous allez, ou vous demandez le livre de Sirah, on va vous dire celui-là, c'est le meilleur livre qui a été écrit sur la Sirah, écrit par un savant, Afwan, Kashti, Naam. Naam, Barakallahu Kashti. C'est un livre écrit par quelqu'un qui est connu dans le fiqh, qui s'appelle Moubarak Fouri, qui a expliqué Shrah, tu veux goulou Shrah. Hein? C'est moi qui ai expliqué. Qui a fait l'explication de Tirmidhi, etc. Je dis, malgré cela, quand la première fois le livre est tombé chez moi et je l'ai lu, il ne m'a pas plu. Pourquoi? Si tu donnes à quelqu'un qui va le lire, ce quelqu'un vraiment connaît le manhaj des salaf, il va trouver qu'il comporte des choses, comme j'ai dit sur ce livre, des choses de militaire, des choses. Vous allez lire les titres. Par exemple, il va te dire le Parlement des compagnons. Le Parlement. Non. Va te dire le qui fâche. Il va citer des noms, des choses avec il va les citer avec des noms qui sont beaucoup plus politiques que religieux. Beaucoup plus militaires, etc. Moi, personnellement, le Nectar Cacheté, hein, il contient bien sûr des choses qui sont bien dans la Syrah. Mais la façon d'exposer les choses ne me plaît pas en lui, ne me plaît pas en ce livre. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. C'est pour la deuxième question. Pour la première question, pour quelqu'un qui veut se laver de l'urine, c'est exactement comme quelqu'un qui se lave des selles. Des selles. Quelqu'un qui va aller aux toilettes. Quand il va se laver des selles, il se lave la partie extérieure. Il se lave les choses qui sont sorties de lui et l'endroit d'où est sortie cette chose, mais l'endroit extérieur. La même chose pour l'urine. Une femme, quand elle va se laver pour l'urine ou bien essuyer, elle ne va pas, par exemple, rentrer son doigt, par exemple, quelque part. Mais juste elle essuie. La partie externe de ses parties intimes, bi-idhnillahi ta'ala. Et comme ça, il n'y aura pas de ouswas, inshallah ta'ala. L'essentiel, elle s'essuie, ou bien elle se lave, et même s'il reste des choses, et comme disent les savants, il est presque impossible que quelqu'un se lave de l'urine, et surtout, des selles. Surtout des selles, sans qu'il ne laisse quelque chose. presque impossible qu'il soit un homme ou une femme. À 98%, tu vas laisser une petite chose, une petite chose, minime, que tu verrais pas comme ça facilement. Mais tu laisses. Et malgré cela, Allah Ta'ala te dit pas pourquoi tu as laissé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait exprès. Parce que c'est tout ce que tu peux. Ne rentre pas dans les waswas. Et celui-là, tu dis, Alhamdoulilah, je pense qu'il n'y a plus rien. Là, tu te lèves, bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal.
Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakumullah wa hafizakumullah ya shir. Je fréquente une mosquée. La seule que je connais, je ne connais pas leur minhaj, mais j'ai remarqué qu'ils font des choses qui ne font pas partie de la sunna. Comme le fait de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la prière de Taraweeh, et ils appellent les gens à aller voter, etc. Que dois-je faire, surtout que le vendredi, c'est la seule sortie que j'ai dans la semaine, et le fait d'écouter le prêche me fait beaucoup de bien. Barakallahu fikoum, qu'Allah Ta'ala vous accorde le Firdaous, ainsi que les administrateurs. Amin. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense pour la science que vous nous partagez, et qu'il, Azza wa Jal, vous accorde le Jannah. Et je voulais aussi vous dire, Ouahibukum fillah. J'ai une question concernant l'assurance pour la voiture. J'avais lu des fatwas comme quoi cela était interdit. Mais je vis en France et pour conduire, il faut obligatoirement une assurance. Et le permis est très utile, donc j'aimerais avoir votre conseil à ce sujet, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Muslim, on va, Inch'Allah Ta'ala, arrêter à 23h, c'est-à-dire il reste 15 minutes ou là, 10 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, j'ai dit qu'Inch'Allah Ta'ala, on faisait des cours dorénavant, une heure de cours, une heure question-réponse. Toi aussi, Inch'Allah, sans me demander, je te donne l'autorisation. Toi aussi, quand tu vois que il est une heure, c'est-à-dire on a fait une heure de cours, toi-même, tu dis, Subhanak bihamdik, et on ferme le salon. Pas la peine de yani, me demander à chaque fois est-ce que c'est combien qu'il reste, etc. Quand tu vois que c'est une heure, je te donne l'autorisation de fermer, Inch'Allah Ta'ala. Voyez. Je commence pour Inch'Allah. Je commence par la deuxième personne, celle qui a dit Uhibbuka fillah, je lui dis Ahabbaka alladhi ahbabtani fih. Pour l'assurance voiture, ce qui est contrainte n'est pas obligatoire. Toi, si c'était possible de ne pas faire l'assurance, tu l'aurais fait. Mais tu sais que si tu ne fais pas l'assurance, tu vas où? Tu vas aller en prison si jamais l'année tu écrases quelqu'un. Qu'en est-il si tu le tues? Donc quand tu vas faire l'assurance, tu dois faire quoi? Tu vas demander la base. Le minimum que tu puisses assurer. C'est-à-dire, tu assures pour que, si jamais dans un barrage, le policier te dit montrez-moi l'assurance, tu lui montres. Yani, le minimum. Tu n'assures pas assurance tout risque, assurance vol, assurance feu, ou assurance ceci, cela. Tu lui dis quelle est la base. C'est-à-dire, ce que je dois assurer, si je n'assure pas, je ne peux pas rouler avec. N'assure rien en plus. Assure le minimum, le minimum. Ça, c'est pour l'assurance, Inch'Allah Ta'ala. C'est comme ça qu'on dit les savants. Pour la mosquée, arrêt pour la mosquée. Toi, puisque le vendredi, tu y vas et que tu trouves des fawa et des tira. Maintenant, quand tu vas la semaine, ça ne te gêne pas ce qu'ils sont en train de faire eux. Si tu peux donner des nasihat avec hikma, etc., tu donnes. Si tu n'as pas assez de science, ou bien tu n'as pas la hikma, ou bien tu as peur des fitna, etc., tu fais la prière et tu vas à la maison. Tu fais la prière en groupe. Sans parler avec quelqu'un, sans parler avec aucune personne, seulement salam, salam, et tu vas à la maison, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala, ce sont eux qui auront les péchés pour ce qu'ils font, et pas toi.
Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Ahsanallahu ilaykum. J'avais vu dans un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait une doua, l'a répété trois fois. Alors pendant le sujoud, je fais toutes mes doua trois fois et je reste un peu longtemps. J'ai peur de trop en faire. Qu'en pensez-vous? Et pour la doua du faux messie, faut-il faire que pendant les prières obligatoires ou aussi ou également dans les surérogatoires? Barakallahu fikoum cheikhana wa hafizakoum Allah. Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullah. Que cela soit du côté de mon père comme du côté de ma mère, quasiment toute ma famille est victime du cancer du sein ou du cancer du côlon. Les médecins me rappellent systématiquement que je dois me faire dépister régulièrement pour ces deux cancers. Je me demande si j'ai le droit ou pas. Jazakumullah khayran wa barakallahu fikum. Et cher, je ne sais pas si vous vous rappelez, mercredi, on vous avait posé une question sur les fuites urinaires. La sœur qui avait des fuites urinaires et elle demandait quand elle doit s'absenter et qu'elle doit sortir et qu'elle ne trouve pas un endroit pour refaire ses ablutions, comment doit-elle faire? Et en fait, elle avait mis une petite précision, mais il était trop tard puisqu'on avait fini le dars. Et elle demandait en fait si elle pouvait joindre ses salats, dhohr et l'asr par exemple, lorsqu'elle doit sortir pour une longue durée. Et qu'elle sait donc qu'elle ne pourra pas garder ses ablutions. Tfadal cher.
Pour la première question, ou là avant cela, pour l'urine, pour la femme qui avait des problèmes d'urine, pour la fois passée, Naam, elle peut, inchallah ta'ala, grouper entre les deux salades à cause de l'incontinence urinaire. Mais elle ne le fait pas tout le temps, elle le fait comme ça. Quand elle sort, elle sait qu'elle va, elle n'a pas où faire des ablutions, elle n'a pas où se nettoyer. Elle peut faire, inchallah ta'ala, ce jour-là. On peut grouper bi-idhnillah et ta'ala. Pour les deux à trois fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça, mais ne faisait pas tout le temps. C'est-à-dire que n'est pas obligé que chaque chose maintenant dans le soujoud, tu vas demander la même chose trois fois. Si tu le fais de temps en temps, d'accord, mais de temps en temps, ne le fais pas. Mais il ne le fait pas tout le temps, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas tout le temps dans tous ses soujouds. Naam. Et pour le faux messie, a'oudou billah من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال on le dit tout le temps que ça soit dans la nafila ou bien dans l'obligatoire tout le temps avant de quitter la prière de dire salam alaikum je dois faire la dua de ces quatre choses bi-idhnillahi ta'ala tafadhal
Il reste la question pour le cancer, cher. Tafadhal.
ah bon, je l'ai oublié Naam. Ce serait très très conseillé. Ce serait très conseillé à la sœur qu'elle fasse le dépistage. Et ça ne rentre pas dans si je vais faire le dépistage, donc ça rentre dans que je n'ai pas de théocol. Non, ce n'est pas ça. Non. L'hérédité, non, ça existe. Vous avez remarqué que l'hérédité dans certaines choses existe, dans beaucoup de maladies. Moi maintenant, au contraire, je veux faire un dépistage pour deux choses. Si je n'en ai pas, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et avoir la conscience tranquille. Si j'en ai, c'est pour commencer les soins tôt. Car ils disent, Allahu alam, que le cancer, quand il est guéri tôt, quand il est découvert tôt, sa guérison est facile. Surtout que maintenant, le cancer de la poitrine, c'est-à-dire des femmes, et maintenant quelque chose de très simple. C'était pas comme autrefois, c'est vraiment difficile. Non, celui de la poitrine de la femme, c'est maintenant quelque chose de très facile, surtout si elle le découvre tout, Inch'Allah Ta'ala. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Khudu hidrakum. Prenez vos précautions. Khudu hidrakum. Donc moi, si je le fais, ce n'est pas, j'ai pas de théocoule, au contraire. C'est pour les deux raisons que j'ai citées. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que yani, elle ne trouvera que du bien dans le résultat de ses analyses. Tafadhal.
Ah, mes chers, donc il va être bientôt 23h. Je vous lis la dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Hafizakum Allah. Pouvez-vous nous faire un rappel sur le nazr, le vœu pieux? Quelles conditions sont permises et lesquelles sont interdites? Quand doit s'appliquer le vœu? Est-ce que je dois attendre qu'Allah m'ait donné ce que je lui ai demandé ou dois-je le faire maintenant? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Le nadr se divise en cinq ou six sortes. Cinq ou six sortes. Je vais juste vous résumer pour vous dire que le nadr en lui-même, il est makruh. Il n'est pas bien de le faire. Il est makruh. D'abord, c'est quoi le nadr? Le nadr, c'est de faire un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala. De dire, je vais faire telle et telle chose, je vais jeûner 10 jours, je vais. Non. Surtout quand est-ce qu'il devient presque haram, si c'est en contrepartie. Si tu dis, Ya Allah, si vous me faites réussir au baccalauréat, je vais égorger un mouton. Ya Allah, si vous me donnez un garçon, je vais, par exemple, donner 1000 euros, par exemple, en aumône. Et comme ça. Ça s'appelle en arabe Nadr al-Iwad. C'est quoi l'Iwad? Ça veut dire, tu as fait un vœu que si Allah Ta'ala te donnait telle ou telle chose, souhait, exaucer tel ou tel souhait, que tu ferais toi telle et telle, quoi, telle et telle, disons, adoration. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ustakhraju min al-Bakhil. Celui qui fait comme ça, c'est une preuve. C'est un avare. Quelle est la preuve qu'il est avare? La preuve qu'il est avare, il a dit à Allah Ta'ala, si tu me donnes cette chose, moi je fais l'autre. Si tu me donnes le bac, j'égorge. Tu me donnes un garçon, je donne 1000 euros. Ça veut dire, si tu ne me donnes pas, je ne donne pas. Vous comprenez? Ça veut dire, si tu ne me donnes pas le bac, moi je ne suis pas fou pour égorger un mouton. Si tu me donnes une fille au lieu d'un garçon, alors que j'avais demandé un garçon, je ne suis pas fou pour donner 1000 euros, je ne donne pas. Je suis avare. Non, ça, c'est pas bien. Il ne faut pas se comporter comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu dis, ben ça, c'est une partie, là, une partie du vœu. Maintenant, il y a le vœu mutlaq. Mutlaq, tu dis par exemple, je fais le vœu de jeûner, par exemple, chaque jeudi, chaque lundi. Allah Ta'ala ne t'a pas imposé que tu jeûnes le lundi et le jeudi. C'est juste une sunna. Mais toi maintenant, tu t'es imposé une chose que Allah ne t'a pas imposée. Dans ce cas, tu es obligé de quoi? Obligé de te faire la chose. Comme a dit Allah Ta'ala, il a dit, Yufuna bin nadr, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Il a dit, Yufuna bin nadr. Ils exaucent leurs vœux. Quand quelqu'un fait un vœu, comme ça, un vœu en général, c'est pas votre vœu, donne-moi où je ferai pas. Non, un vœu général. Je vais jeûner chaque jeudi, lundi. Je vais jeûner, quelqu'un qui fait un vœu général, il doit tenir sa promesse. S'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il ne peut pas, il doit jeûner 3 jours, bismillah, ou plutôt, il doit nourrir 10 pauvres. Non. S'il ne peut pas, alors il va jeûner bi-idhnillah 3 jours. Et le nadr, comme j'ai dit, des fois il est dans quelque chose de haram, des fois il est dans quelque chose de halal. Le prophète sallam a dit, si tu fais un nadr dans une chose de haram, il ne faut pas tenir la promesse. Par exemple, tu dis, je fais le vœu, par exemple, de fumer une cigarette demain. Tu as fait un vœu de haram. Dans ce cas, tu dois pas tenir la promesse, c'est-à-dire ne pas fumer. Et tu dois aussi quoi? Et tu dois faire l'expiation, de nourrir 10 pauvres. Ou bien jeûner 3 jours si tu ne peux pas. Maintenant, si tu as fait un vœu de halal, qui est déjà une adoration imposée. Regarde cet exemple. Tu dis, je fais le vœu de faire demain salat Allah. Salat Allah. C'est obligé que tu la fasses. Même sans quoi? Même sans vœu. Donc, quel est l'avantage d'avoir fait le vœu ici? Tu as l'avantage d'avoir fait le vœu pour t'encourager encore plus. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a peur, par exemple, il a fait le vœu, c'est pour qu'il ait peur, car il a peur que s'il ne fait pas le vœu, il va faire une expiation. Donc, dans ce cas, il dit, Yannick, je vais faire un vœu juste pour être sûr que je vais faire la chose demain. C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de lire le Coran, ensuite il a commencé à faiblir, il dit par exemple, je fais le vœu que ce mois-ci, je lirai tout le Coran. Je fais le vœu que ce mois-ci, je vais lire tout le Coran. Dans ce cas, il est en train de faire le vœu pour s'encourager. Pour s'encourager à faire des choses quoi? À faire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Dans ce cas, il doit tenir sa promesse. Allah ta'ala a dit quoi? Il a dit, yufuna bin nadr. Au fond, la Bible, c'est-à-dire ils tiennent leurs promesses quand ils font le souhait des Kitabs. Et il y a bien sûr d'autres choses, et le hadith a dit que s'il fait un vœu sur le haram, il ne doit pas faire tenir la promesse, mais il doit faire une expiation. Et il y a encore trois ou quatre autres sortes de vœux, on dit inshallah ta'ala pour la prochaine fois. On arrête inshallah ta'ala ici, on va se rencontrer bi'idhnillahi ta'ala mercredi, inshallah ta'ala. Je dis سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.